RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Produire 100% de son électricité grâce à l'énergie éolienne, c'est le défi que s'est lancé l'Uruguay, petit pays d'Amérique latine de plus de 3 millions d'habitants, où fleurissent depuis quelques années maintenant des champs éoliens. L'Uruguay qui consacre 3% de son PIB annuel à bâtir son indépendance énergétique à l'horizon 2035 avance petit à petit dans la mise en place d'un plan ambitieux adopté en 2008. Et en ce qui concerne l'éolien, eh bien le pays est en passe de réussir son pari. Écoutez le grand reportage de Marine de la Moissonnière, notre envoyée spéciale en Uruguay. Marine que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage.
On va se garer ici. Devant nous, on voit plein d'éoliennes. Ça fait du bruit, hein? Vous allez réussir à l'enregistrer?
Nous sommes au parc éolien Herrera del Sur, à 150 km de Montevideo. 25 éoliennes dernier cri sont en service depuis plus d'un an. Visite avec Felicindo Castro, le responsable du site.
On est au pied de l'éolienne numéro 1, la première du parc qui s'étend sur un peu plus de 13 km. Quand on regarde vers le nord, on voit les 25 éoliennes du parc installées sur la ligne de crête de la montagne. Elles mesurent 78 mètres de haut. On n'a pas eu besoin d'en mettre de très grandes parce que, comme on est en altitude, le vent est fort. Chacune des trois pales mesure 46,5 mètres et pèse 3 tonnes. La nacelle fait 80 tonnes et le pylône environ 70.
Comment fait-on pour installer une éolienne?
Eh bien d'abord, il faut faire un trou de 1000 mètres cubes dans lequel on place la base sur laquelle sera fixée l'éolienne. Pour ces fondations en béton armé, il faut 39 tonnes de fer et 250 mètres cubes de ciment.
Tout autour de nous, ce sont des champs.
Oui. En général, on installe des parcs éoliens sur des terres agricoles. Les éoliennes font du bruit. Il y a aussi des nuisances dues aux ombres projetées au sol. Mais c'est tout à fait compatible avec une activité agricole. On va aller voir là-haut.
Ce chemin, il n'existait pas avant.
Non, avant, la montagne était vierge. Il a fallu qu'on fasse des routes. Ici, un mur borde le chemin. Il est composé de pierres entassées les unes sur les autres et datait du 19e siècle. On a essayé de ne pas abîmer ces murs, mais c'est inévitable qu'il y ait des dégâts, notamment là où on a mis les éoliennes. On a été obligé de casser. On avait fait des études très poussées pour évaluer les conséquences sur la faune et la flore notamment, avant de commencer les travaux. Finalement, le parc n'a eu qu'un impact minime sur l'environnement. On a même essayé de sauver des arbres en modifiant un peu le projet initial.
Le parc Herrera del Sur est l'un des 18 champs éoliens qui fonctionnent en Uruguay. Ils fournissent 8% environ de l'électricité consommée dans le pays. 18 autres parcs sont actuellement en construction. D'ici la fin de l'année, en moyenne, 30% de l'électricité proviendra de cette énergie renouvelable. Un chiffre record qui fera de l'Uruguay le champion du monde de l'éolien devant le Danemark, l'Allemagne et l'Espagne.
Si vous regardez une carte de l'Uruguay, c'est simple. Des éoliennes, il y en a partout.
José Cataldo, professeur à la faculté d'ingénierie de l'Université de la République uruguayenne, il est l'un des premiers à avoir découvert le potentiel éolien du pays.
Je ne dessine pas très bien, mais en gros, l'Uruguay a la forme d'une poire. Au nord, il y a le Brésil, l'Argentine. Au sud, c'est le Rio de la Plata. Et à l'est, l'océan Atlantique. La vitesse des vents augmente en allant vers le sud, où il y a des collines, ce qui crée une zone très favorable. Les conditions atmosphériques font que l'Uruguay a un très fort potentiel éolien. Les vents de nord-est soufflent assez fort, quasiment en permanence. Le vent fait partie du quotidien des Uruguayens. C'est même l'un des rares facteurs négatifs pour le tourisme. Tous ceux qui vont à la plage le savent, il y a toujours du vent ici.
À une vingtaine de kilomètres de la station balnéaire de Piriápolis, dans le sud de l'Uruguay, au cœur de la Sierra de las Animas, un parc éolien devrait voir le jour. Mais 80 habitants de cette zone s'y opposent et ont réussi à retarder le projet. Bettina Amorin, étudiante en gestion des aires protégées, et Paola Di Bello, architecte paysagiste, sont les porte-parole du groupe.
La Sierra de las Animas est l'une des plus vieilles formations rocheuses du monde, bien plus vieille que les Andes. Ici, il y a tout, des tonnes d'oiseaux, des renards, des mouflettes, des tatous, des chats sauvages, des serpents. Et il y a également des monticules de pierre érigés par nos ancêtres. Darwin en avait recensé 200 quand il était venu en Uruguay.
Ces montagnes sont aussi spéciales parce qu'elles se voient depuis Montevideo. Les éoliennes vont gâcher ces paysages naturels. Le problème, c'est le marketing éolien. On montre aux citadins des images aériennes d'éoliennes blanches, graciles, élégantes, avec comme slogan « l'Uruguay naturel ». Mais on ne leur parle pas des destructions qu'implique la construction de ces éoliennes.
Il y a plein de rapports, d'études qui déconseillent d'installer un parc éolien ici. Alors pourquoi les autorités n'abandonnent-elles pas ce projet? Si ce qu'elles veulent véritablement, c'est protéger la nature, alors pourquoi elles n'implantent pas ce parc ailleurs, dans un site moins sensible?
Est-ce que vous avez obtenu une réponse à cette question?
On nous a dit que la priorité, c'est de changer le modèle énergétique.
Si l'Uruguay mise sur l'éolien, c'est bien sûr parce que c'est une énergie verte, mais des impératifs économiques ont également motivé cette décision. Pas de gaz, pas de pétrole, pas de charbon, des ressources hydrauliques exploitées au maximum, le nucléaire interdit depuis 1997 et des voisins qui ne peuvent plus pallier le déficit énergétique uruguayen. Faute de financement et de savoir-faire dans le domaine de l'éolien, le pays a su attirer des entreprises étrangères. Ramon Mendes, secrétaire d'État à l'énergie de 2008 à 2015.
L'énergie éolienne, c'est juste une affaire financière, puisque le vent est gratuit et le coût d'opération est aussi très très bas. Donc le coût de l'énergie, c'est juste repayer l'investissement initial. Et donc si les conditions d'investissement sont favorables pour l'investisseur, il perçoit un risque très bas, donc il est prêt à avoir un taux de rendement du point de vue économique assez bas. Et donc on a créé des conditions très favorables en offrant des informations qui sont auditées internationalement et des assurances pour l'investisseur, dont la plus importante, c'est d'avoir un contrat pendant 20 ans. Le distributeur est obligé d'acheter l'énergie à tout moment, à un prix fixe. Et donc, ce flux continu d'argent, c'est une garantie très importante pour l'investisseur. Donc, on a eu de très forts intérêts. On a eu plus de 25 entreprises qui ont présenté dans ces appels d'offres internationaux. Il y a eu une très forte compétition et c'est pour ça qu'on a obtenu des prix très, très, très compétitifs.
Grâce à cet engagement de l'État d'acheter toute l'électricité éolienne produite pendant 20 ans, de nombreuses compagnies françaises, espagnoles, allemandes, américaines et même chinoises investissent dans le pays, à tel point que les autorités assurent que par moment, 100% de l'électricité consommée sera d'origine éolienne. Alvaro Bermudez, secrétaire d'État à l'énergie de 2003 à 2005, dénonce une utopie.
En tant qu'ingénieur, je n'y crois pas une seconde. C'est très beau, ça fait un bon titre pour la presse. Le problème avec l'éolien, c'est que vous introduisez dans l'équation un facteur d'incertitude extrêmement important. Vous ne pouvez pas savoir quand le vent soufflera, à 4 heures du matin, quand personne n'en a besoin, ou à 19 heures, au moment où la demande atteint un pic. Si dans votre modèle énergétique, l'éolien dépasse les 20% environ de l'électricité consommée, cette incertitude devient ingérable.
On ne peut pas stocker l'électricité produite quand le vent souffle.
En Uruguay,
aujourd'hui, en Uruguay, nous n'avons pas les installations nécessaires. Peut-être que dans le futur, ce sera le cas. Des recherches sont en cours. Par exemple, on pourrait utiliser l'électricité pour alimenter des stations de pompage d'eau, ou alors la stocker dans des batteries, mais ça coûterait extrêmement cher. À mon avis, on ne devrait pas chercher à dépasser les Européens. Des pays avec beaucoup d'expérience en la matière, comme le Danemark par exemple, se limitent à 20-25% d'éolien dans leur mix énergétique. En allant au-delà, l'Uruguay fait un saut dans le vide, et c'est d'autant plus risqué que notre réseau électrique n'est pas prêt.
para este tipo de cosas.
Álvaro Bermúdez, ancien secrétaire d'État à l'énergie, réclame que le modèle énergétique uruguayen repose sur une source d'approvisionnement sûre. Lui milite pour le nucléaire. Le gouvernement répond que les différentes énergies dont dispose l'Uruguay se compensent. Ajuster l'offre à la demande, c'est le travail du Centre national d'exploitation du système électrique. Un bâtiment perdu au milieu de nulle part, à 20 minutes de voiture de Montevideo. Andrés Tosso en est le directeur.
Voici le centre de contrôle. D'ici, on gère le réseau électrique de tout l'Uruguay. Il est représenté sur le grand panneau avec plein de petites lumières que vous voyez en face de vous. Ces installations ont 30 ans, mais on est en train de tout changer, de tout automatiser. Les informations sont actualisées en quelques secondes. Le petit écran là-bas indique la consommation d'électricité totale. Aujourd'hui, à 10h09, elle est de 1282 MW. Ce n'est pas beaucoup parce qu'il ne fait pas très chaud. Sur l'écran en face de vous figure ce que produisent les centrales hydrauliques. Là, c'est l'éolien. Et ici, ce que fournissent la biomasse et les centrales thermiques.
Il y a génération de biomasse.
Si la demande augmente, que se passe-t-il ?
Les opérateurs donnent l'ordre aux centrales hydrauliques ou thermiques de produire plus pour établir l'équilibre entre l'offre et la demande. Tout se fait par téléphone. Si la production d'électricité éolienne augmente, on demande alors à une centrale de produire moins. On pourrait ne pas utiliser toute l'énergie éolienne, mais ça n'aurait pas de sens. Nous, ce qu'on fait ici, c'est minimiser les coûts pour le pays.
Dans le modèle énergétique élaboré par les autorités uruguayennes, l'électricité produite par les parcs éoliens est utilisée en premier, puisque l'État s'est engagé à l'acheter quoi qu'il arrive. L'électricité d'origine hydraulique sert de complément. Et si malgré ces deux sources d'énergie, les besoins ne sont toujours pas satisfaits, alors l'Uruguay met en marche ses centrales thermiques. Il lui faut donc importer du gaz. Un terminal de gazéification est ainsi en train d'être construit au large de Montevideo. Mais pas facile dans ces conditions de gérer les approvisionnements en gaz. Omar Paganini, membre de l'Observatoire de l'énergie et du développement durable.
En cas de sécheresse, le gaz stocké dans ce nouveau terminal sera insuffisant. En un mois, on aura tout utilisé. Alors qu'une année pluvieuse, on aurait de quoi tenir 12 mois. Alors comment déterminer les dates de livraison de gaz liquéfié ? C'est très compliqué. Les producteurs de gaz exigent des contrats à long terme, avec des dates fixes. Et ils imposent des conditions très dures, comme par exemple le take or pay. Quand le bateau arrive, même si vous n'avez pas besoin du gaz, vous êtes obligé de le payer. C'est là que vont apparaître les problèmes économiques. Il faut donc que l'Uruguay négocie des contrats flexibles avec un montant minimum d'achat et la possibilité de repousser à plus tard le reste, par exemple.
Autre problème qui pourrait se poser, que faire à l'inverse d'un surplus d'électricité ? L'Uruguay compte l'exporter. Seul bémol, ces excédents ne pourront pas être anticipés. Les prix seront donc bas, l'Uruguay devra peut-être même vendre à perte. Peu importe, cela reste plus avantageux, explique Daniel Pérez, ancien coordinateur du programme éolien au ministère de l'Énergie.
Et les scénarios ?
D'après les analyses économiques qu'on a faites pour valider notre modèle, en cas d'excédent, même en n'utilisant pas l'électricité éolienne alors qu'on la paye, même en la « jetant », entre guillemets, l'Uruguay avait intérêt à se doter d'autant de parcs éoliens. On pourrait supposer que cette électricité en trop, on n'aurait pu la vendre ni à l'Argentine, ni au Brésil. Mais c'est un cas de figure peu probable. Nos voisins nous achèteront cette électricité parce que le coût de production chez eux est supérieur au nôtre. Au cours des prochaines années, je m'attends à ce que certains parce qu'on jettera de l'électricité de temps en temps, mais c'est voir les choses par le petit bout de la lorgnette. En matière d'énergie, il faut réfléchir de manière globale, sur le long terme.
mucho más largos que un día o una hora.
À long terme, justement, une véritable intégration régionale en matière énergétique serait la solution, estiment certains experts. Un Mercosur de l'énergie qui permettrait aux voisins d'équilibrer leur production d'électricité et d'acheter en commun du gaz et du pétrole. Uruguay, le choix de l'électricité 100% d'origine éolienne. Un grand reportage de Marine de la Moissonnière, réalisation Marc Minatel.
Marine de la Moissonnière, bonjour.
Bonjour Laurent.
Alors l'Uruguay s'est lancé, on l'a vu, dans ce vaste plan pour assurer son indépendance énergétique, mais en faisant appel comme cela à des entreprises privées étrangères. Voilà la question. Est-ce qu'elle ne tombe pas dans une autre forme de dépendance ?
Eh bien c'est vrai que c'est une question qui se pose, une question que j'ai d'ailleurs posée à mes interlocuteurs en Uruguay, et notamment à Ramon Mendes, le secrétaire d'État à l'énergie, qui vient tout juste de quitter son poste. Et lui, ce qu'il répond, c'est que les contrats sont bien ficelés, impossible pour les entreprises qui produisent l'électricité éolienne de la vendre à d'autres pays, par exemple, car ces parcs sont directement raccordés au réseau uruguayen qui appartient à UTE, l'équivalent d'EDF, UTE qui est la seule entreprise à fournir et distribuer de l'électricité en Uruguay. C'est donc techniquement impossible de vendre à d'autres. Ensuite, si les entreprises privées décidaient de ne pas livrer l'électricité au réseau national, de faire une grève de l'électricité en quelque sorte, eh bien, elles ne seraient pas payées. Et pour le pays, ce ne serait pas si grave que ça, puisque l'Uruguay a de toute façon prévu d'autres sources d'approvisionnement en énergie, au cas où il n'y aurait pas de vent. On l'a vu dans le reportage, l'hydraulique et puis le gaz.
Il faut préciser aussi que tous les parcs éoliens en Uruguay ne sont pas aux mains de sociétés privées.
Oui, certains appartiennent à UTE et ça, c'est très utile pour l'État car ça lui permet de savoir très précisément comment fonctionne un parc éolien. En cas de conflit ou même simplement de demande de la part des entreprises privées, de demande de modification du contrat par exemple, eh bien ça lui permet de savoir si ces revendications sont justifiées ou pas.
Alors pour que ce système fonctionne, l'Uruguay a tout de même sacrément besoin de ses voisins.
Oui, et la nouvelle dépendance, elle est peut-être plutôt à chercher de ce côté-là. On l'a vu dans le reportage, l'Uruguay compte sur l'Argentine et le Brésil pour absorber ses excédents d'électricité, mais aussi de gaz. Il devra peut-être aussi écouler en Argentine ses surplus de fuel, vu que c'est le gaz qui va maintenant alimenter les centrales thermiques. L'Uruguay veut devenir en quelque sorte un exportateur régional d'énergie. Et ça, c'est possible tant que ses voisins sont déficitaires. Mais que se passera-t-il si la situation change ? L'Argentine, par exemple, s'est lancée dans la production de gaz et de pétrole de schiste, avec notamment le gisement de Vaca Muerta en Patagonie, gisement qui serait l'une des plus grandes réserves en hydrocarbures non conventionnelles au monde. Si cela se confirme, eh bien l'Argentine pourrait arrêter d'importer de l'énergie.
Alors pour terminer, à propos de pétrole, Marine, malgré tous les investissements dans l'éolien, l'Uruguay s'est quand même mis en quête de pétrole.
Oui, de pétrole de schiste, mais surtout de pétrole conventionnel. Il faut savoir que si aujourd'hui la moitié de l'énergie consommée en Uruguay, là je parle bien de l'énergie, pas seulement de l'électricité, eh bien donc si la moitié de cette énergie provient de sources renouvelables, il y a le reste, les transports, l'industrie. L'Uruguay a donc de toute façon besoin de pétrole. L'exploration a débuté l'été dernier et les premiers résultats ne sont pas attendus avant plusieurs années. Mais déjà, le gouvernement se prépare à l'éventualité de la découverte d'un gisement. Plusieurs ministères sont au travail pour décider de ce qui sera fait de cette nouvelle source d'énergie et de l'argent qu'elle rapportera. En tout cas, promettent les autorités, cela ne remettra pas en cause le plan de développement de l'éolien.
Ce sera le mot de la fin. Grand reportage à réécouter bien évidemment sur RFI.fr. Marine de la Moissonnière, merci beaucoup. Bonne journée.
Rimgaudas Rusgis est